Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans ce magazine de nature et d'environnement. C'est Eau de mon amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller vite. Avec aujourd'hui Yann Bouillot, Ronan Maillet à la technique et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza. Et ben j'accueille avec plaisir notre nouvelle réalisatrice Valérie Ayestaraï. Vous l'avez remarqué, un nouveau générique signé Fabrice Ravel-Chapuis, donc heureux de vous retrouver. Et tout le bonheur que l'on vous souhaite, c'est de vous être reposé en faisant un plein de nature, à pied, à cheval, en canoë, en vélo. D'autant plus que le spectacle de la nature est ouvert à tous. Et oui, pêche, melon, abricots, parcs nationaux, grenouilles, récital de grillons, de clarines dans l'Aubrac, ou concerto pour hamac et rossignol de nuit. Et oui, le tout sans forcément passer des heures en famille dans les bouchons. Ou bien on peut être aussi du style, hein, pourquoi pas, pour aller du point A au point B. C'est l'autoroute que je préfère, parce qu'à 50 ans, si on n'a pas une grosse cylindrée, bah c'est qu'on a raté sa vie. Et bah ça tombe bien, parce que là, j'ai ce qu'il vous faut. Une trame verte, ça c'est pour un peu plus tard, mais une trame de bitume à péage privé qui recouvre la France d'un bout à l'autre. Vous en avez rêvé, Jean-Louis Bordeaux l'a fait, discrètement, c'était vers le 15 juillet, 880 km d'autoroute supplémentaire nous sont promis dans l'intérêt général. Ça va chercher quand même dans les 7 milliards. C'est toujours ça que les petits gars du ferroutage qui seront bientôt avalés par le privé n'auront pas. Alors, il faut dire que les corridors à camions sont essentiels, c'est vrai, pour une économie basée sur la circulation maximum des pots de yaourt, eh oui, que nous consommons. Mais Dixit, le parrain du Grenelle, croix de bois, croix de fer, cette fois-ci, un dernier petit bio-aéroport nantais, et puis c'est la dernière livraison. Un bel été, donc, qui n'est pas terminé. Un temps parfait, tenez ce week-end pour un lâcher de vautours. Alors là, je vous arrête tout de suite. Hein. Ce ne sont pas les philanthropes de chez Goldman Sachs reconvertis, qu'on a d'ailleurs découvert ce matin dans l'intéressante nouvelle émission économique d'Alexandra Ben Saïd. Non. Il s'agit du vautour moine, une espèce de rapace très utile, hein, qu'on a relâché dans les baronnies, dans la Drôme. Et les vautours, si vous voulez, c'est un peu comme les tramways. On les avait supprimés dans les grandes villes au siècle dernier. Eh bien, on les réintroduit 70 ans plus tard. Bref, le 21e siècle fête ses 10 ans à peine et on le sent bien, hein, sans l'opposer de façon stérile à l'innovation, et ben la nature revient au galop. Il était temps, Pierre Rabhi nous dit, nous vivons hors sol. Et Pierre Rabhi, on va l'avoir pendant toute cette heure. Il faudra une génération pour renverser cette affaire et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans son discours de rentrée, c'était mardi aux États-Unis, le président Obama a commandé un nouveau tapis pour son bureau ovale. Et sur ce tapis, on peut lire une phrase de John Kennedy, « Pas un des problèmes de l'humanité n'est hors de portée des êtres humains. » André Malraux le disait autrement, « Il existe des réponses de civilisation à tous les grands défis. » Et si ces hommes avaient raison? Allez chiche et bienvenue dans le monde de la Renaissance. On va continuer de vous donner envie dans ce magazine sans continuer à vivre à 100 à l'heure en dépassant donc les limites autorisées de la planète, hein, le pied sur le rendement immédiat. Donc vous informer, alerter, expliquer, vous faire sourire, mettre en avant des gens qui font, des gens qui bougent, qui pensent déjà la Terre autrement. Et c'est le cas d'un homme avec qui donc nous allons passer cette heure de rentrée, Pierre Rabhi, penseur et acteur agissant de l'environnement, rencontré dans son jardin en Ardèche. Mais tout d'abord, pour faire le lien, un petit bonjour à vous Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, non, en fait, bonjour
vous...
à tous.
Vous allez être très sobre aujourd'hui pour une raison très simple, on l'a dit, Pierre Rabhi donc est avec nous.
Je trouve que c'est une merveilleuse idée d'avoir choisi de débuter cette nouvelle série par Pierre Rabhi. C'est un homme dont je me sens très proche et pour lequel j'ai à la fois beaucoup d'affection et beaucoup d'estime. Parce que d'abord nous partageons l'essentiel, il dit parfois... Nous sommes passés d'un stade où nous pensions, comme tous les peuples premiers d'ailleurs, que nous appartenons à la vie. Et maintenant, nous pensons que c'est la vie qui nous appartient. Oui. Il dit ça, c'est formidable, c'est tout à fait vrai. On est en effet passé à cette idée d'une sorte de domination universelle sur tout le vivant, sur tout l'univers, sur tout le cosmos. Vive-nous, quoi, vive-moi. Oui. Et la conscience ne suit pas. Et la conscience, elle, doit nous dire que nous sommes effectivement appartenant à la vie, que nous ne pouvons pas en être les maîtres. Mais la preuve, c'est qu'on meurt. Voilà, c'est une preuve irréfutable. Donc, voilà, je partage ce point de vue avec lui. Lorsqu'on a cette manière de sentir, on est moins destructeur. La deuxième chose qui me frappe beaucoup chez Pierre, c'est qu'il fait des bouquins, il fait, comme la preuve en est là, des conférences, de la radio, etc. Et en plus, il fait ce métier d'agriculteur bio, et en plus, il l'exporte en Afrique, qui est son territoire d'origine. Donc, il n'est pas seulement un parleur, mais il est un acteur aussi. Et quand je le vois et quand je l'écoute, je me pose la question, est-ce que moi, je ne suis qu'un parleur, ou est-ce que je suis un petit peu acteur aussi? Alors, je me rattrape comme je peux en me disant, moi, je suis scientifique. Mon métier, c'est d'être un scientifique.
Vous avez quand même inventé l'écologie urbaine à Metz. Hein.
Oui, là, j'étais acteur. Oui, tout à fait. J'ai fait un bouquin sur l'évolution, là, qui est un travail scientifique de fond, que j'ai consacré tout l'été. Alors, je fais petitement mon métier aussi pour réintroduire cette idée très, très forte que nous appartenons à la vie et que nous devons la respecter avec humilité et modération. Si on pouvait avoir beaucoup plus de Pierre Rabhi et un petit peu moins d'avocats d'affaires dans les gouvernements, un petit moins d'RH pour diriger l'univers, un petit moins d'investisseurs, tout ce monde qui nous encombre la tête du matin au soir, du soir au matin, ça serait mieux.
Allez, dans quelques instants avec Pierre Rabhi, nous allons partir dans cette merveilleuse Ardèche cévenole.
I've always known since I was a young boy in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a whole. Like a hobo from a broken home.
choisie par Muriel Pérez, notre programmatrice, c'était Charlie Winston. Vous êtes bien donc sur France Inter à 14h16, où nous sommes en direct. Et je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais lors de l'université d'été, eh bien, les Verts ont parlé de tout, politique, stratégie, alliance, tambouille en vue de 2012, bon, normal, mais pas du tout d'écologie, pas du tout. Pierre Rabhi, lui, il en parle, il n'oublie pas l'homme. C'est un très grand petit homme qui n'est pas très connu du grand public, mais très connu du public écologisé. Alors, ce n'est pas un contestataire comme les autres, hein. Ce n'est pas un rêveur, son discours est étayé par une expérience, il a une spiritualité personnelle. C'est un homme qui est très pragmatique, qui a une mise en pratique, il a une manière différente hein, d'être relié à la terre, au sol, aux autres. Il cherche à sortir les gens de la misère, à leur donner une autonomie. Donc à la fois, il a une profondeur de champ, j'allais dire de jardin, et aussi une hauteur de vue. Et donc j'ai eu le plaisir de le rencontrer, c'était là il y a 8 jours, chez lui, dans cette Ardèche qui est multiple, c'est très très beau. Alors nous sommes dans son jardin à 240 mètres d'altitude, on a l'impression que c'est plus haut, ben non, c'est à 240 mètres. Et alors Pierre Rabhi, quel paysage nous avons sous les yeux ?
D'abord, nous avons la chance d'être sur une espèce de plateau dégagé, donc on voit 17 clochers de chez nous, évidemment, en circulant un peu, bien sûr. L'Ardèche a cette caractéristique, c'est qu'elle est très diversifiée. Ouais. Donc là, nous sommes dans le calcaire, et là-bas, on voit en face le grès, juste le piémont, un petit peu moins. Un peu plus au-dessus, c'est le schiste. Et si on monte encore davantage, on a le granit. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de roches, de terrains, qui évidemment produisent aussi une diversité. Ça a une influence sur la diversité végétale, probablement sur la faune, sur beaucoup de choses. Et en peu de temps, on fait juste quelques kilomètres et puis on est dépaysé. Moi, il m'est arrivé d'aller dans un endroit, faire quoi, 50 kilomètres, et de me dire, mais c'est le Canada, c'est je ne sais pas quoi. Voilà. Quand nous sommes arrivés ici, alors c'est un calcaire fissuré. Hein, oui. C'est-à-dire que l'eau ne reste pas non plus. Donc, on n'a pas les meilleures conditions, disons, pour faire de l'agriculture.
Parce qu'on est quand même sur une mer de rochers. Alors, il faut imaginer quand même un homme qui est ouvrier spécialisé et puis qui arrive dans les années 60. Là, vous êtes tout jeune, vous avez 23, 24 ans ou...
Oui, bah, c'est-à-dire que le choix que j'ai fait de retourner à la terre, est évidemment, n'est pas simplement un choix, disons, d'aller faire le métier de paysan. C'était une protestation extrêmement sérieuse et assez virulente contre notre modèle de société. Non pas dans le sens, si vous voulez, d'une réactivité stupide, mais à la fois, je ne pouvais pas me départir d'une idée selon laquelle nous étions dans ce microcosme complètement aliénés, quoi. Sous le prétexte qu'on nous donnait un salaire à la fin du mois, on devait donner notre vie entière à produire et consommer. Donc c'est, disons, le paradigme lui-même hein, fondamental de cette société que j'ai totalement récusé. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, le seul peut-être espace dans lequel je peux reconsidérer l'espace et le temps, oui. C'est un retour à la terre.
Voilà, faites attention parce que là on passe à côté des mûriers, ronces, oui. Des ronces, oui, mais enfin des ronces nourricières. Hein,
voilà, il y a des grappes de mûres.
Oui. Qu'on est prêt à accueillir. Hein, non, il nous reste encore 15 jours à peu près.
Voilà, oui, voilà. Là, tout est dedans malgré l'austérité et la difficulté du lieu. Ce lieu, on s'y est attaché extrêmement fort. Et donc, nous y vivons maintenant depuis 45 ans.
Ouais. Et c'est vraiment votre laboratoire, parce que c'est là aussi que vous avez créé, donc forgé votre idée d'agroécologie. Alors, on va peut-être aller voir, je ne sais pas, peut-être un bout de... Là, on est dans votre petit champ d'olivier.
Donc, l'agroécologie, quand j'ai fait mon retour à la terre, je n'en avais aucune idée. Ouais. J'ai été ouvrier agricole pour apprendre vraiment. Et c'est là que j'ai découvert finalement les exactions commises contre la nature par l'apport massif de pesticides, ce qu'on met dans la terre, ce qu'on projette, c'est les organochlorés, phosphorés, etc. Et donc, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait une espèce de... comme une déclaration de guerre à la vie, évidemment, ça ne m'a pas du tout convenu. Je me suis dit, si l'agriculture, c'est ça, je ne ferai pas de l'agriculture. Et j'ai découvert, heureusement, que cette question que je me posais, moi, à mon tout petit niveau, c'est une question qui avait non seulement été posée, mais en fait, des gens extrêmement compétents avaient déjà abordé cette question en remettant en cause l'agriculture moderne qui, malheureusement, ne peut pas produire sans détruire les sols, sans polluer les eaux, sans polluer les environnements, etc. Donc, on rentre dans quelque chose qui a, par définition et logiquement, une finitude quelque part. Et en s'en prenant à ce patrimoine vivant, évidemment, on le confisque aux générations futures, voire on le rend pire que s'il n'y en avait rien fait. Oui. Et donc c'est un peu philosophiquement cette question-là qui m'a amené à dire je veux être en harmonie avec la nature, je ne veux pas être un ennemi de la nature et un destructeur de la nature.
Vous avez beaucoup de gratitude parce que lorsqu'on marche, vous regardez régulièrement le sol, un peu comme ça pour le sculpter, pour lui dire comment vas-tu.
Oui, disons que quand je suis arrivé, petit Saharien, vous savez, je me suis retrouvé dans cette terre des Cévennes, rocailleuses. Alors je m'y suis retrouvé par rapport à l'ambiance générale de la rocaille, du minéral dominant. Hein. Il y a du végétal aussi, heureusement, pas mal de végétal. Et donc cette terre, je dirais qu'elle m'a adopté, je l'ai adopté, on s'est apprivoisé mutuellement. Oui. Je l'ai beaucoup travaillé, mais en la régénérant, avec force compost, force travaux raisonnés, de façon à ne pas bouleverser sa structure ou dénaturer ce qu'elle était. Oui. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que cette terre s'épanouit. Et elle nous faisait des offrandes chaque année de plus en plus importantes.
Donc c'est le côté réversible quand même de l'affaire qui est très important. Rien n'est définitif a priori, même sur une terre très pauvre, très ingrate.
Voilà, c'est un peu ce qui est extraordinaire. Alors qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique ? C'est pas aller chercher des sacs d'engrais chimiques, etc. C'est se reconnecter à cette énergie extraordinaire de la vie. Il y a ce que j'ai planté ici, puis il y a ce que je n'ai pas planté. Oui. Les chênes qui sont là, moi je ne passe jamais mon temps à les biner pour dire qu'il faut qu'ils s'entretiennent tout seuls. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de voir que ce que la nature a fait jusqu'à maintenant. Je suis à l'école de la nature et je me dis, le sol, il a une structure, il ne faut pas la détruire. Elle s'est constituée. Le nourrir, ce n'est pas amener des sacs d'engrais, c'est d'amener de la matière organique que je vais faire fermenter sous la forme de compostage, en atmosphère d'oxydation et de réduction, qu'est-ce que je vais produire ? Je vais produire un cheptel formidable que sont les bactéries. Mon tas de compost, ça va être un concentré de bactéries. Si j'ai bien fait les choses, j'ai bien obtenu ce concentré. C'est des milliards de milliards de milliards. Et ces bactéries, je vais les mobiliser à donner de la vitalité à mon sol.
Elles vont faire le travail.
Elles vont faire un énorme travail. C'est un peu comme nous, quand nous avons été traités aux antibiotiques, on nous dit qu'il faut prendre des levures, etc. Mais qu'est-ce que je fais avec du compost ? J'apporte des ferments bactériens qui vont donner à ma terre son métabolisme et sa force. Et en plus, je vais avoir des substances nobles, chimiques nobles, des oligo-éléments. Oui. Toutes sortes d'éléments et se concentrer en quelque sorte que je vais amener à ma terre, eh bien, c'est ce qui va lui donner une puissance, disons, qui est celle de la vie.
Quand vous parlez de terre-mère, c'est pas seulement une métaphore ?
Loin de là. Loin de là, il suffit de réfléchir pour savoir que c'est une expression, certes, qui a une tonalité peut-être poétique, mais qui est d'une rigueur absolue. C'est-à-dire que c'est la terre qui nous nourrit. Qui que nous soyons, où que nous soyons, sans la terre qui nous nourrit, nous mourrons. C'est tout. Nous n'existons que par cette terre qui, justement, là, élabore les substances à laquelle on confie nos graines. Nos graines vont pousser, vont nous donner un panel extraordinaire de nourriture. Elle va nourrir les animaux, elle va nourrir les êtres humains, elle va nourrir tout le monde, va être nourri, les insectes, tout le monde est nourri de cela. Et donc, quand on dit terre-mère, ce n'est absolument pas une métaphore, c'est une réalité absolue.
Alors, on va peut-être passer dans votre potager. Là, où est-ce qu'il est là, derrière. Oh, quelle merveille, là. Donc là, on a des pieds de maïs, pas en abondance, mais qu'il faut.
C'est du maïs de consommation. Hein. C'est-à-dire que c'est du maïs, pour les polentas.
Vous ne faites pas d'agrocarburant, vous ?
Non. La terre, pour moi, est sacrée. Elle n'est pas faite pour alimenter les bagnoles, les moteurs. Par les déchets, à la limite, s'il y a des déchets, mais certainement pas cultiver la terre pour nourrir les moteurs. Oui. Pour moi, c'est une espèce de profanation, quoi, quelque part. Ouais. Donc là, nous avons du maïs de consommation pour faire de la polenta. Nous avons des tomates qui déclinent maintenant, parce que c'est le moment où elles commencent à décliner. Mm-hmm. Bien sûr, des courgettes, des aubergines, des poireaux, voilà, une gamme. J'avais même des melons et des pastèques, mais comme nous sommes en plein dans le sauvage, oui. Eh ben, il y a des blaireaux qui sont venus se servir.
Et, oui.
Et donc, ils ont prélevé une taxe assez élevée d'ailleurs.
Ah, c'est ça.
J'aurais bien souhaité qu'ils prennent une taxe
juste un peu
normale, mais là, ça a été... On a donc des vignes, on a des oliviers, alors nous faisons l'huile, et je suis très fier de faire de l'huile, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'oliviers, ou si peu, donc j'en ai planté, et j'ai toujours dit, j'aimerais bien mourir après avoir bu mon huile, avoir consommé mon huile.
Ouais.
Donc voilà, j'ai consommé mon huile, donc maintenant on verra ce qui va se passer.
Oui, bah prenez un petit peu de temps pour la consommer encore de nombreuses années, Pierre. Voilà.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
J'ai eu la chance d'assister un jour à un orage incroyable dans la Haute-Ardèche, cette fois-ci. C'était du côté du Mont Mézinc, si vous connaissez. Ça, c'est un spectacle de la Terre absolument grandiose. Donc, on va retrouver cet homme avec cette pensée originale, donc Pierre Rabhi, un homme qui déteste l'endoctrinement, qui n'aime pas certains révisionnismes écologiques, qui a trop de respect pour le libre arbitre de chacun. Donc, on est à côté de son ancienne magnanerie, ce qui veut dire qu'il y a des vers à soie. Je le rappelle, on est dans cette Ardèche chévenole. Et alors maintenant, Pierre Rabhi, dites-nous, quelle est la différence entre l'agriculture biologique et l'agroécologie?
Dans un premier temps, quand j'étais ici, moi je faisais de l'agriculture biologique, voilà, tout simplement.
Ouais.
Et quand je me suis retrouvé au Sahel, où là, dans les années 70, il y a eu des sécheresses terribles.
Et donc l'agroécologie, vous dites que ça peut être une porte de sortie, ou plutôt une porte d'entrée, tout à fait intéressante, parce qu'en fait, on est au-delà d'une technique aussi avec l'agroécologie.
Alors qu'est-ce que c'est que l'agroécologie ? L'agroécologie, je n'achète pas d'engrais chimiques. Je vais fertiliser mon sol, non pas avec du fumier frais ou de l'engrais chimique, mais je vais le fertiliser avec une matière organique que j'aurais fait fermenter. Et ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure, ferment bactérien, concentré voilà. Bactérien. Les sols dans ces pays-là sont des sols non seulement qui ont été détruits par la sécheresse, mais en plus vous avez le rayonnement solaire qui finalement stérilise les sols jusqu'à 25, 30, 40 cm par l'échauffement. Voilà. Donc il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de faune, il n'y a plus d'éléments. Donc qu'est-ce que je vais faire avec cet apport-là ? Eh bien, je vais redonner à la terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce compost qui est proche de l'humus. Et vous savez que l'humus, c'est l'élément clé de la vie. D'ailleurs, c'est humus, humanité, humilité, humidité, c'est la même chose. Mmh. C'est la même étymologie. Donc, ça, non seulement c'est une matière, mais c'est aussi quelque chose qui est d'un ordre symbolique du rebond de la vie. Voilà. Et qu'est-ce que la vie, depuis les origines, a fait ? Tout pousse, grandit, tout vit et meurt. Et quand ça meurt, ça se transforme. C'est-à-dire que c'est pas quand ça meurt, c'est perdu. Donc il y a tout le cycle de la pérennité de la vie qui est mis en place par la vie depuis longtemps.
J'allais vous dire, en vous écoutant, ce que vous dites, ça peut être transposé au corps humain. Hein.
Mais absolument. Je veux dire, c'est très curieux parce que dans le mental des gens, on oublie complètement que nous sommes de simples mammifères.
Ouais.
Nous sommes d'abord des mammifères. Hein, nous mangeons, nous déféquons, nous faisons de l'amour, nous reproduisons, etc., etc. Comme n'importe quel mammifère. Simplement, il semblerait que nous ayons un privilège particulier. Nous sommes érigés, droits, nous avons une tête sphérique et puis semble-t-il, nous avons de l'intelligence. Ce dont je doute d'ailleurs, parce que je vois le résultat qu'on a obtenu sur notre magnifique planète. Moi, je suis vraiment, mais tout le temps dans un émerveillement sans limite. Et tout ce que nous trouvons à faire de cette beauté, c'est de l'enlaidir, c'est de la détruire, c'est de croire que nous en sommes les patrons, etc., etc. Nous ne sommes pas évolués. Parce que si nous étions évolués, eh bien, nous ne ferions pas de cette merveille le désastre que nous sommes en train d'en faire.
Alors c'est pour ça que vous appelez depuis longtemps une insurrection des consciences. On aura beau faire tout le bio que l'on veut, mais si on ne change pas de conscience fondamentalement, vous dites qu'on n'arrivera pas forcément à grand-chose, quoi.
Mais c'est d'une telle évidence, si vous voulez, le monde tel qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce ne sont pas les baleines, je veux dire le monde de l'organisation humaine.
Oui.
C'est quand même ni les baleines, ni les éléphants qui ont organisé le monde. C'est notre conscience qui a voulu ce monde. Bon, ce monde, malheureusement, notre histoire est une traînée sanglante depuis les origines. D'ailleurs, moi, quand j'étais à l'école, on n'arrêtait pas de m'apprendre les batailles, qui a gagné qui. Enfin, j'avais presque le sentiment, en tant que petit saharien, que les gens passaient leur temps à se battre. Voilà.
Ouais, on était en guerre tout le temps.
On était tout le temps en guerre. En plus, on nous cassait la tête parce qu'il fallait retenir les dates des victoires et des machins. Là, ça me donnait des migraines absolument incroyables. Et du coup, toute cette stupidité, disons, il fallait l'avaler. On est passé à côté des grands questionnements qui sont les questionnements qui nous ramènent à notre nature, à ce que nous sommes et à ce que nous devons véritablement apprendre pour évoluer.
Alors Pierre Ravi, là, on est en train de marcher dans votre grand jardin. On entend des rires d'enfants. Alors ça, c'est quand même de l'avenir. Ça fait aussi beaucoup, beaucoup de bien. On a le soleil là qui vient de se lever parce qu'il y avait un peu de pluie ce matin. On a les gorges de l'Ardèche, je veux dire qu'ils sont presque à nos pieds. De l'autre côté, on a le Chassezac, qui est une rivière qui coule depuis la Lozère. Voilà.
L'affluent de l'Ardèche.
L'affluent de l'Ardèche, ouais.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites le matin ? Quels sont vos premiers gestes ? Vous allez dans votre jardin ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors là, c'est les saisons qui déterminent un peu mes gestes premiers,
oui,
disons le matin. Quand c'est l'été, bien sûr, j'ai une attraction presque irrésistible vers le jardin, aller voir si les choses vont bien. Donc l'été, c'est vraiment une vie plus livrée à l'extérieur, etc. Et puis l'hiver, c'est plutôt... une vie plutôt intériorisée, je me mets à l'écriture, je me mets à des choses qui concernent aussi toutes les actions que j'essaye de mener. Elles sont quand même nombreuses.
Vous, vous êtes crédible en fait depuis très longtemps, Pierre Rabhi, parce que justement vous mettez vos paroles en acte, vous démontrez donc les choses. Et je crois que les gens cherchent de plus en plus, on le voit très bien à travers des débats, des conférences, ils cherchent du sens, oui. Ils cherchent de la cohérence. Le monde moderne prétend libérer l'homme en fait de l'obscurantisme en l'incitant donc à user de sa raison. Mais derrière tout ça, il y a quand même tout un système qui est presque de la monoculture, aussi bien agricole que de la monoculture de la pensée.
Ben, derrière tout ça, il y a la dévotion et la toute-puissance que nous avons donnée au lucre. C'est pas autre chose. C'est ça qui perturbe l'humanité. C'est-à-dire que, à partir du moment où le lucre est au-dessus de tout, et qu'on peut mettre quelqu'un à la porte pourvu que l'entreprise fasse des dividendes pour servir, etc., etc. Je veux dire qu'il serait long de voir combien notre dévotion et la dévotion du paradigme actuel qui a mis au service du lucre tout son génie. Tout ce que nous inventons, c'est le service du lucre, constamment. Et dans ce monde-là, vous savez, on n'acquiert pas son truc de chevalier en allant exposer son corps dans le champ de bataille. On l'acquiert simplement parce qu'on est très astucieux, qu'on sait faire des affaires, qu'on sait gagner de l'argent. Alors toute cette masse de gagneurs d'argent constituant en confrérie internationale, on finit finalement par dominer le monde. Et donc aujourd'hui, on est tous subordonnés à ce pouvoir, et c'est pour ça que bon, on peut en sortir que par la sobriété.
Oui, parce qu'en fait, on part sur le côté la terre nous appartient, alors que c'est l'inverse.
Évidemment, cette espèce de hold-up illégitime, c'est un véritable hold-up que sous prétexte que j'ai de l'argent, je peux acquérir un bien commun plus précieux que moi et plus précieux que tout. C'est-à-dire le bien commun qui est indispensable à la survie des générations qui viennent. Et je me permets, parce que j'ai du fric, eh bien de confisquer aux générations futures ce qui leur revient de droit, légitimement. Et je ne comprends pas qu'il ne puisse pas y avoir une réglementation internationale mettant les biens communs, l'eau, la terre, tout ce qui est nécessaire à la survie, comme n'étant absolument pas subordonnable à une spéculation quelconque. C'est le bien sacré, le bien commun qui doit être préservé.
Vous n'êtes pas dans l'utopie, hein. Vous êtes peut-être dans une forme parfois de rêve, mais comme vous le dites, un rêve plus un autre additionné, ça commence à devenir une réalité.
Je crois à deux lois. Il y a la loi de ce qu'on appelle le ferment. Vous voulez faire du pain, vous prenez un petit truc, vous faites un petit peu de levain, vous le mettez dans le levain, il va agir sur la masse. Voilà. Vous avez la loi du chaos, c'est-à-dire que les choses se détruisent, se déstructurent, mais tout ce que se déstructure prépare à une autre construction. Je crois en la contamination positive. À partir du moment où ce qu'on a inventé est juste, il doit être mis à l'épreuve, évidemment, hein, de la vérité. Ça ne doit pas être un truc qui me fait mousser, etc. Je dois le mettre à l'épreuve de la vérité. Moi, j'ai tout essayé instinctivement de mettre à l'épreuve de la vérité. Quand je parle d'agriculture biologique, je n'en parle pas comme ça, comme une théorie générale. J'ai expérimenté chez moi, à mes risques et périls, je l'ai transposé ailleurs et je vois que ça marche. Donc à partir de ce moment-là, ben, on est dans le témoignage de vérité, et cette vérité mise à l'épreuve des faits, eh bien, on peut à ce moment-là, sans scrupule, en parler. Et c'est pour ça que je suis péremptoire. C'est véritablement la mise à l'épreuve d'une réalité tangible à laquelle je me suis confronté, avec bonheur d'ailleurs, hein, cette confrontation n'est pas douloureuse, au contraire, c'est mon chemin d'initiation, et dont les résultats mettent absolument en évidence, et ça c'est absolument incontestable, que l'approche agroécologique est la seule approche possible aujourd'hui pour obtenir que les populations du monde puissent accéder légitimement à la nourriture qui leur est nécessaire.
Alors ça, on n'est pas sûr du tout qu'aujourd'hui ce soit véritablement le choix. Je sais que vous n'êtes pas du tout dans l'opposition frontale, et puis ce n'est pas votre caractère non plus, mais face, je dirais, à des agriculteurs là, qui nous entendent, qui font leur boulot comme ils peuvent, qui sont très souvent surchargés de dettes. Bon, à part quand même une poignée de quelques-uns là, qui fonctionnent très bien, parce qu'il y en a qui gagnent très bien leur vie, mais ce n'est pas vraiment la majorité. On le voit aussi bien sur le problème du lait, sur le problème de la viande, enfin, etc. Eux sont effectivement dans un système, et en plus on leur dit « vous allez nourrir le monde ». C'est ce que l'on peut comprendre, hein. c'est une fierté d'agriculteurs, de paysans aujourd'hui. Mais vous pensez que ce système-là, il est peut-être en fin de voie ou...
Alors soyons très clairs, moi je n'ai absolument pas, disons, je ne fais pas le procès des gens et des individus. Je fais le procès d'un système qui a aliéné l'être humain. L'être humain est dans ce système aliéné. Le progrès qui était censé nous libérer, il nous enferme. De la maternelle jusqu'à l'université, on est enfermé. D'ailleurs, l'université, les jeunes appellent ça le bahut. Ensuite, vous tombez dans les casernes. Ensuite, quand vous demandez aux gens où est-ce que vous travaillez, tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va en boîte. Et puis, on y va dans quoi ? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis, vous avez la boîte dans laquelle on stocke les vieux en attendant la dernière boîte ou la dernière urne que je vous laisse deviner. C'est un système abject parce que c'est un système qui est fondé sur l'aliénation de l'être humain, et c'est ça ma douleur. Je souffre pour l'humain aliéné. Et par ailleurs, il faut savoir que, il y a d'un côté les opprimés, de l'autre côté les oppresseurs. Eh bien, cherchez chez les opprimés, vous trouverez des oppresseurs. Le problème n'est pas de dire il y a d'un côté les opprimés. Quelqu'un qui est oppresseur de par sa nature, il peut être perçu comme une victime. Et pourtant, lui-même, que font aujourd'hui certains États à la tête de certains pays avec leur corruption, avec toutes ces choses horribles et l'aide avec laquelle ils se comportent ? On ne peut pas faire le clivage entre d'un côté les bons et d'autre côté les mauvais, d'un côté les innocents et de l'autre côté. Mais moi-même, je ne m'abstrais pas du tout de ma responsabilité dans ce monde-là. Mais la douleur dans l'âme, je suis bien obligé de dire que j'ai une voiture, que chaque fois que je fais le plein, j'enrichis telle ou telle multinationale et que je suis aussi compromis que n'importe qui. C'est simplement à partir de cette compromission que je suis bien obligé d'assumer parce que sinon, je ne bouge pas. Je veux dire, voilà. À partir de là, j'essaye d'agir pour qu'autre chose puisse se réaliser. Parce que si je me contente que de protester en tirant parti de cette protestation parce que je veux, etc., je ne serai pas honnête avec moi-même. Je proteste, mais j'agis en même temps pour qu'autre chose puisse se réaliser. Underneath the mango tree, honey, honey, don't watch for the moon. Underneath the mango tree, honey, honey, make all the loops.
Underneath the mango tree.
très très agréable. C'était Cybèle sur France Inter. Elle ne vient pas de l'Ardèche, on s'en doute un petit peu. Je ne vous ai pas dit que Pierre Rabhi, en fait, sur son petit plateau, eh ben, il travaille avec 30 mètres cubes d'eau par an, oui. Et puis aussi donc, toute l'eau pluviale qu'il a donc pu stocker et récupérer. Donc l'autonomie, c'est aussi un de ces maîtres mots de cet homme donc, qui a créé le mouvement pour la terre et l'humanisme. Alors Pierre a sorti un ouvrage aux éditions Actes Sud. Le dernier s'appelle « Vers la sobriété heureuse ». Alors justement, parlons-en. Sobriété heureuse, parce qu'en fait, il ne parle pas de décroissance. En fait, c'est un mot de décroissance et des idées qu'il soutient qui sont encore un peu difficiles à appréhender pour une grande partie de la population. Donc pour vous, Pierre Rabhi, qu'est-ce que c'est la sobriété heureuse ?
La sobriété heureuse, pour moi, c'est avant tout la voie de la libération. C'est-à-dire que nous sommes tous impliqués dans une société qui nous dit « vous n'avez jamais assez ». C'est-à-dire que je pourrais dire que c'est une dynamique de la frustration qui est orchestrée de telle façon qu'elle est subliminale. C'est-à-dire qu'elle atteint l'être humain dans ses représentations. Et qu'est-ce qu'on dit à l'être humain dans ses représentations ? Eh bien, tu n'as pas assez, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu serais mieux si tu avais une plus jolie bagnole, on te regarderait mieux, etc. etc. Donc, elle prend l'être humain par sa subjectivité et avec une manipulation machiavélique, finalement, qui fait croire à l'être humain qu'il est misérable. Voilà, ouais. Qu'il est misérable. Alors que quand la sobriété, c'est la façon de dire...
On va passer entre vous deux. Plan de vigne, voilà.
De dire, lutter contre un système tel qu'il est, c'est très difficile. Par contre, il y a une chose que j'adopte parce que j'y trouve véritablement du bonheur et de la légèreté, c'est la sobriété. Elle est légère. Oui. On n'est plus dans un toujours plus et de l'insatisfaction. Parce que ce qui est frappant dans notre monde hyper riche, c'est qu'il y a abondance et insatisfaction à la fois. Parce qu'on met le seuil de satisfaction tout le temps très élevé, et du coup, on n'y arrive jamais. Alors du coup, on a des gens qui sont toujours frustrés de quelque chose qu'ils n'ont pas, et ils ne savent pas voir ce qu'ils ont déjà, et qui devrait les réjouir pleinement. Et ensuite, c'est une libération, parce qu'une fois que j'ai répondu à mes besoins légitimes de survie, j'ai du temps pour m'occuper de mon intériorité. Je dois avoir le droit aussi de perdre du temps, à la condition de ne pas être à la charge de qui que ce soit. Oui. C'est-à-dire que si je suis à la charge de qui que ce soit, ça veut dire que je ne suis pas libre. Et donc, à ce moment-là, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est la sobriété que l'on admet et que l'on construit soi-même sans préjudice à qui que ce soit.
Regardez, là, on passe là sous votre tunnel d'olivier. Et puis, à côté, il y a des rangs de vignes. Voilà, avec le vert argenté de l'olivier, c'est extraordinaire. On a déjà donc ces fruits, il faudra attendre quoi, l'hiver hein, pour les cueillir.
L'automne. Oui, l'automne. Puis là, il y a des courges qu'on appelle les butternuts. C'est une magnifique courge qui se conserve bien, qui est bonne. Et ça, je l'aime beaucoup. Là, vous avez du raisin noir, blanc, etc. Ouais. Et puis voilà, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses.
C'est trop tôt, mais j'ai quand même goûté.
Nous rassemblons tout ça.
Non, il est. On va attendre encore un petit peu.
Oui, encore acide, mais il y a les frelons qui se servent aussi.
Oui. Pierre Rabhi, comment on peut aider les gens, je dirais, à réviser les uns les autres nos modes de consommation, parce qu'on est quand même dans un système dominant que l'on connaît par cœur. Donc, est-ce que vous êtes foncièrement pessimiste ou bien vous dites non, il y a quand même des sorties possibles?
Oui, cette question qui revient souvent, on me dit est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Moi, je reprends un peu la phrase de Bernanos qui disait le pessimiste, c'est un imbécile triste et l'optimiste, un imbécile heureux.
Oui. Moi, je pense qu'il vit mieux. Quoi.
Voilà, voilà. C'est un stratagème pour pouvoir quand même se rasséréner quelque part.
Il y avait Voltaire qui disait, moi, je préfère être du côté du bonheur parce que c'est meilleur pour la santé.
Voilà, exactement. Donc, moi, je ne cherche pas du tout à rentrer dans une quelconque autosuggestion.
Ouais.
Par contre, les faits sont qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution générale de notre histoire et qu'on prend les différents paramètres, la plupart des paramètres sont négatifs. C'est-à-dire menaçant, non pas parce que la nature méchante nous en veut, c'est fondé sur nos transgressions.
Non, mais une fois de plus, vous n'êtes pas non plus rousseauiste, hein, c'est-à-dire que la nature, elle est ni bonne ni méchante.
Hein, voilà. La nature, il y a des lois rigoureuses, c'est-à-dire qu'elle, c'est comme si c'était un principe, il faut que la vie vive. Et il faut que la vie vive à tout prix. Ça, c'est ce qui me frappe. Il faut que la vie vive à tout prix. Alors, les décisions qu'elle prend, les stratagèmes qu'elle met en place sont destinés à cela. Voilà, donc point final, il n'y a pas ni bon ni mauvais.
Alors on a des indicateurs, vous le disiez effectivement, qui aujourd'hui scientifiquement sont prouvés, sont dans le rouge. Dérèglement climatique, biodiversité qui est quand même un peu en berne, des gens donc qui ont faim sur Terre, problème de l'eau qui sera beaucoup plus crucial même que le problème du pétrole.
Oui.
J'en oublie aussi sûrement.
Oui, disons que si nous voulions faire le bilan, c'est-à-dire le diagnostic général de l'état des lieux, il est certain que ce diagnostic met en évidence complètement que ça va très mal.
Mais les gens ne vont pas le ressentir, hein, parce que après
non,
tout...
Non, parce que quand on est dans son microcosme, ouais. C'est-à-dire qu'on ne ressent les choses qu'à partir de son microcosme. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, les différents paramètres qui président véritablement à la pérennité à la suite de l'histoire sont aujourd'hui tous négatifs. Voilà. Alors, on peut se dire... ça va aller jusqu'au bout, de transgression en transgression, l'être humain va s'éradiquer lui-même sans même s'en rendre compte. Ou bien, ce que je vois aussi, heureusement pour moi, parce que je suis conférencier et que je rencontre énormément de gens, je vois quand même poindre de plus en plus une vision nouvelle. C'est-à-dire qu'une vision nouvelle qui nous fait sortir, disons, que de la société de l'avoir vers la société de l'être. Je rencontre même des étudiants, parce que nous recevons des gens des grandes écoles, on reçoit des toutes sortes de personnes, qui, de plus en plus, ne sont plus dans cette ambition de la carrière, mais plus dans une quête, pas réussir seulement ma carrière. Ce n'est pas la réussite de la carrière qui prime. Maintenant, si je peux réussir et ma carrière et ma vie, tant mieux. Mais il arrive que je réussisse ma carrière, mais que je loupe ma vie. Je n'ai pas regardé les étoiles, je n'ai pas vu les fleurs, je n'ai pas écouté le chant des oiseaux, je n'ai pas été présent à ceux qui m'entourent, à mes enfants, à ma famille, etc. etc. Donc, je me pose la question, ai-je vécu ? C'est ce que je me suis permis de dire quand j'ai été invité au MEDEF, où j'ai dit ouvertement, moi, existe-t-il une vie après la mort ? Je n'en sais rien. Mais je me demande même s'il existe une vie avant la mort.
Oui.
Et qu'est-ce que veut dire vivre aujourd'hui ? Est-ce que vivre aujourd'hui, c'est simplement naître au monde, apprendre, acquérir des connaissances qui vont me faire de moi un bon producteur consommateur jusqu'à la fin de mes jours, et on me demande de travailler 2 ans de plus, etc., etc. Ou est-ce que je suis né, incarné réellement, pour être présent à cette réalité vivante, qui est la nature, et de jouir et d'être nourri de cette réalité naturelle pour mon épanouissement. Et à ce moment-là, la mort va me devenir banale, parce que j'ai bien vu que tout naît, meurt, se dissipe. Maintenant, qu'est-ce qu'il advient après ? C'est plus mon souci. Mais la plupart du temps, on passe son temps dans des bibliothèques à essayer de comprendre s'il existe une vie après la mort. Et finalement, la vie qui est là, qui existe, on n'est pas présent à cette vie. On n'est pas présent au monde tel qu'il est.
Alors Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être soi-même ce fameux petit colibri, donc cet oiseau amérindien qui prend sa petite goutte d'eau lorsqu'il voit son incendie et puis qui apporte sa goutte d'eau et puis qui fait sa part lui-même.
Je pense que les lamentations sur le monde qui va mal sont nombreuses. Mais la réalité, elle est que le caractère même de la nature, dans ce qu'elle a d'irrévocable, auquel nous devons nous-mêmes notre vie et notre survie, est profondément atteint. Je n'ai pas de souci pour la planète. On ne va pas détruire la planète Terre, ce n'est pas vrai. Il suffit d'être jardinier pour se rendre compte. Vous avez votre plate-bande de carottes, etc. Vous essayez de la soigner et pof, il y a l'invasion d'herbes, que l'on dit mauvaises herbes, enfin qui sont des herbes sauvages, simplement, qui envahissent et qui reprennent tout. Si l'humanité s'absentait 50 ans de la planète, tout serait à refaire. Les autoroutes, les machins, les trucs. Tellement il y a une puissance extraordinaire de la vie. Donc moi, je ne crois pas que ce soit cela. On fera du mal, on fera du tort. Il ne faut pas le nier. Mais faire disparaître la planète, non. Bon, reste maintenant l'espèce humaine. Alors l'espèce humaine, et on dirait qu'elle met un malin plaisir à s'éradiquer elle-même. Elle détruit ce qui lui donne la vie. On se nourrit très mal, on s'empoisonne avec des nourritures insalubres. On bétonne la terre qui nous nourrit, on détruit de mille manières, on pollue de mille manières, etc. etc. Alors, on peut se dire, bon, il n'y a pas d'issue. Non, je crois qu'à un certain moment, quand on aura compris, comme disait une prophétie indienne, quand vous aurez épuisé le dernier poisson, détruit le dernier arbre, vous vous apercevrez que l'argent, ça ne se mange pas. et on va s'en apercevoir très très rapidement. Par contre, bon, j'ai un certain pressentiment quand même de conscience qui aujourd'hui sont en train de s'éveiller, c'est-à-dire sortir de leur inconscience pour arriver à quelque chose qui nous rétablit dans l'ordre universel. Et dans cet ordre symphonique qui est absolument extraordinaire que représente la vie, les étoiles, enfin, quand on parle écologie, ce n'est pas seulement la Terre, c'est aussi les étoiles, c'est aussi le Soleil, c'est aussi... Oui. C'est tout cela, l'écologie, c'est pas... Et c'est ce que ça fait résonner en nous de profondément important. C'est aussi de l'écologie. Quand j'admire un arbre magnifique, c'est de l'écologie. C'est... L'écologie n'est pas simplement l'étude des faits et rationnels que l'on peut mesurer et pondérer, c'est aussi tout notre ressenti intérieur, et quand on est sensible au chant d'un oiseau, eh ben on est dans l'écologie. Et c'est tout cela, l'écologie. On l'a tellement matérialisée qu'elle a perdu sa nature profonde.
Ce qui est formidable, c'est que c'est ici, en fait, dans ce jardin, dans ce verger, dans ce champ d'olivier, dans ce potager, que sont nées toutes ces idées, parce que vous les avez mises, bien sûr, en mouvement et en pratique. Alors, qu'est-ce qui vous touche lorsque vous regardez, par exemple, ce fruit d'olivier ou bien ces courges-là ?
Bah, tout est l'expression de la vie, c'est-à-dire que la vie s'exprime de mille façons, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est le même souffle, la même vie, la même énergie, et qui est capable d'une diversité à l'infini. Il paraît qu'il y avait 1 milliard 300 millions et quelques d'espèces sur la Terre. Nous on en a éliminé quand même pas mal, malheureusement, l'avènement de l'Homo sapiens ou ce qu'on voudra, enfin l'avènement de l'être humain, notre avènement a été très préjudiciable finalement à la planète. Je viens de faire publier un bouquin de Osborne qui s'appelle « La planète au pillage » qui déjà en 1949 avait démontré combien finalement notre avènement en tant qu'espèce est un avènement terrible. Et nous avons, il y a des civilisations enterrées sous le sable qui font le bonheur des archéologues, mais qui ont été le sable des déserts, lesquels déserts ont été provoqués par l'être humain, par l'outrance qui, quand il est sorti de « j'appartiens à la vie », pour la vie m'appartient, à ce moment-là, il est allé dans l'outrance des prélèvements, et on continue. Hein. Alors la nature, à un certain moment, pouvait compenser, maintenant elle compense de moins en moins, donc ce qui veut dire que le grand souhait que l'on puisse imaginer, c'est l'intelligence.
Bah, écoutez, un grand merci Pierre Rabhi, puis à très bientôt.
Merci beaucoup Denis, en tout cas je t'encourage à continuer à rechercher et à mettre en évidence l'essentiel. Et moi, je crois que c'est très important.
Rencontre donc avec Pierre Rabhi, cet homme à la double culture, né en Algérie avec une éducation française et qui cultive, on va dire, sa spiritualité un peu personnelle, comme son jardin, c'est-à-dire sans engrais idéologique. Voilà, donc un homme, vous l'avez compris, totalement à contre-courant de la pensée actuelle, qu'elle soit de droite ou de gauche, qui a écrit « Vers la sobriété heureuse » aux éditions Actes Sud, et puis un bon nombre aussi de sites sur le site de CO2 Mon Amour, en plus alimenté par Anne Gouzon. Merci à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza, à Valérie Ayestaraï, donc notre réalisatrice, qui a aussi donc mixé cette rencontre, ce reportage avec Pierre Rabhi. La semaine prochaine, on va retrouver à la fois Jean-Marie Pelt, on aura de l'actualité avec Nathalie Fontrelle, et puis un petit dossier, je vous emmènerai du côté de Valence, donc pas très loin de l'Ardèche, pour découvrir l'ACRIRAD, c'est-à-dire la Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité. Donc on va voir ce qu'ils font, c'est pas du tout des marchands de peur, simplement ils informent la population, ils ont une expertise, donc on parlera avec eux de leurs travaux. Voilà, je vous retrouve avec grand plaisir pour l'atelier du Mon Petit Loup. Ce sera ce soir, demain après les petits bateaux, oui, à 19h54. Et possibilité pour vous de réécouter cette émission, de la podcaster, me semble-t-il, pendant une semaine.